Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bonjour, l'audience est ouverte, l'accusé est à la barre, l'humanité, 200 000 ans d'existence et nous voilà près de 8 milliards d'homo sapiens à vivre sur cette terre. La victime aujourd'hui, la victime, c'est le temps. En France, nous vivons en moyenne 700 000 heures, nous passons environ 63 000 heures à travailler, contre près de 200 000 en 1900. Si l'on déduit notre temps de sommeil, le temps libre représente désormais plus de la moitié de notre vie. Et pourtant, nous manquons de temps en permanence. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi, malgré les progrès technologiques qui nous libèrent depuis deux siècles des tâches les plus ingrates, nous avons toujours l'impression d'être débordés? L'heure du deuxième procès du siècle a sonné. Avons-nous encore la maîtrise du temps? Quelles sont les causes de cette grande accélération que nous ressentons? En sommes-nous les victimes ou les coupables? Pascal Chabot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes belge, vous vivez à Bruxelles où vous enseignez à l'Institut des hautes études des communications sociales. Vous avez publié de nombreux livres, notamment Global Burnout, et vous venez de publier Avoir le temps, essai de chronosophie aux presses universitaires de France. Vous allez nous expliquer ce qu'est la chronosophie. Et en face de vous, Roland Gory, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, professeur émérite de psychologie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez publié, vous aussi, de nombreux ouvrages comme La fabrique des imposteurs et Si l'effondrement avait déjà eu lieu et tout récemment La fabrique de nos servitudes aux éditions Les liens qui libèrent. Alors pour la plupart d'entre nous, messieurs, le temps se résume à des secondes qui forment des minutes, qui forment des heures, qui forment des jours, qui forment des années. Nous n'en avons jamais assez pour faire tout ce que nous voulons faire. Pascal Chabot, comment est-ce que vous définiriez le temps ?
Classiquement, on dit que le temps est le milieu omni-englobant dans lequel se déroule la succession des événements et des phénomènes. C'est le milieu dans lequel tout devenir advient. Et quand on veut qualifier un peu plus ce temps, on peut choisir de distinguer entre un temps objectif, qui est celui que la physique étudie, analyse et pour lequel elle donne certaines équations. Il y a également un temps subjectif, bien évidemment, le temps qui est celui que nous connaissons le mieux, le temps qui n'est pas celui des secondes et des heures, mais qui est d'abord une durée. Et à côté de ce temps subjectif, existe bien entendu un temps culturel, le temps des civilisations, car nous ne pensons ni vivons le temps comme un Égyptien de l'Antiquité pouvait l'aborder. Donc la notion est doublement complexe parce que difficile à définir, et puis aussi complexe parce qu'elle est différente selon les points de vue et les disciplines qui la traitent.
Roland Gory, votre définition ?
Pour moi, le temps, un peu à la manière d'Aristote, c'est le changement des choses, des êtres et des relations. C'est-à-dire, c'est ce qui bouge. Et vous savez que cette conception, qui finalement était quand même énormément branchée sur notre rapport au vivant, notre rapport à la nature, a été quand même recouverte, cette notion, cette signification, par un temps très mécanisé, un temps très rationalisé, à savoir le temps de la physique galiléenne et newtonienne, qui nous amène à diviser en quelque sorte notre rapport au monde en termes de jours, en termes d'heures, de secondes, de mois. Et je crois que c'est important parce que une de mes définitions du temps serait de considérer que le temps est non seulement une illusion, on y reviendra sûrement, Anne-Cécile, mais le temps est un marqueur de pouvoir. C'est-à-dire, qui possède la maîtrise du temps possède le pouvoir sur les choses et sur les êtres humains. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la physique moderne, vraiment, c'est-à-dire la physique relativiste, la physique quantique, elle pulvérise complètement cette conception très mécanique, très rationnelle des physiques antérieures, c'est-à-dire Galilée et Newton, qui nous amène à considérer qu'il y a un passé, un présent et un futur. Alors qu'en 1955, quelques mois avant sa mort, Einstein considère que lui, en tant que physicien, pour lui, la détermination entre passé, présent et futur est une illusion. Mais c'est tout de même tout à fait extraordinaire. Donc, pour terminer sur ce premier point, je crois que le temps est une illusion, c'est une construction sociale et qui nous permet de réguler les rapports que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les choses. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, nous manquons de temps, tout simplement parce que nous sommes aliénés à une temporalité qui nous est prescrite et dictée par la technique. Une technique intéressée, c'est-à-dire financiarisée et marchande.
Vous avez tous les deux parlé de cette notion du temps qui passe, le temps que l'on ressent, comment est-ce que l'on se positionne, nous, les humains, face à ce temps qui passe. Il n'y a pas de procès sans témoin, donc j'appelle à la barre un premier témoin, le philosophe Étienne Klein, qui nous donne sa définition du temps qui passe.
Alors la question d'aujourd'hui, c'est une question en fait assez difficile. C'est la façon dont on représente le temps, qui n'a pas changé depuis Newton, consiste à représenter le temps par un axe rectiligne en général sur lequel on met une flèche et on dit c'est l'axe des temps. Et donc on représente le temps comme une variable à une dimension, un seul nombre suffit à repérer une date, et la flèche qu'on met là a plusieurs sens. D'abord, elle signifie que si vous êtes présent sur l'axe des temps à un certain instant, appelons-le l'instant T, vous êtes empêché d'y demeurer. C'est-à-dire, si vous êtes présent à l'instant T, aussitôt après, le cours du temps vous oblige à vous déplacer en même temps que lui. Autrement dit, la flèche traduit une sorte de motricité du temps qui vous empêche de rester présent au même instant présent. La deuxième chose que signifie cette flèche, c'est qu'elle vous dit en fait que vous ne pouvez pas choisir librement votre position dans le temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décider d'être ici plutôt que là, et si vous avez été présent quelque part, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ça veut dire que le temps qui est là représenté de façon statique, en fait, il est mu par une forme de dynamique dont le responsable est ce qu'on appelle le moteur du temps. Et donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que nous sommes capables d'identifier le moteur du temps, ou pour le dire en termes plus familiers, est-ce que nous savons d'où vient que le temps passe ?
Identifier le moteur du temps, d'où vient que le temps passe ? Question posée par le philosophe des sciences Étienne Klein. Pascal Chabot, dans votre livre que vous venez de publier, Avoir le temps, vous expliquez, vous, qu'il y a quatre temps qui se superposent pour la première fois dans une civilisation. Expliquez-nous cela et pourquoi ça pose problème.
Les deux représentations originaires, disons, c'est le destin et le progrès. Le temps comme destin, c'est le temps de la nature, le temps qui s'impose, le temps que l'on constate, le temps qui est cyclique d'abord et avant tout, parce que même dans nos civilisations qui sont des civilisations où le temps linéaire prédomine d'abord et avant tout, c'est le temps des saisons, la succession des jours et des nuits, les cycles de notre corps, bien évidemment. Et ce temps est un temps que l'humain ne maîtrise absolument pas, ne cherche pas à maîtriser. C'est le temps qui s'impose à lui et n'est pas maîtrisé par lui. Il s'agit de s'y insérer. Et la modernité, d'abord et avant tout, innove en accueillant le futur dans sa réflexion et en disant que plutôt que d'être dans un temps uniquement cyclique où demain rejouera aujourd'hui, l'humain, par son action, peut être producteur de nouveautés qui créera un lendemain différent d'aujourd'hui. Et le progrès doit être conçu comme une manière de concevoir une différence faite dans le futur à partir de l'action présente. Et cette différence sera alors comprise comme meilleure, comme une amélioration. Là, c'est l'ancien et le nouveau, disons, le destin et le progrès.
Mais à cela, vous ajoutez deux nouvelles notions qui sont l'hypertemps et le délai.
Oui, elles sont très récentes. L'hypertemps, c'est le temps du numérique. Voyons, par exemple, si l'on prend un téléphone, son iPhone, on comprend tout de suite ce qu'est le temps du numérique avec alarme, chronomètre, omniprésence du temps. Nos écrans sont d'abord et avant tout des machines à rappeler l'heure qu'il est, des comptes. Un temps à rebours qui est tout à fait...
Combien de minutes pour lire un article?
Voilà, il vous reste autant de minutes pour arriver à destination, autant de secondes pour tel téléchargement. Ce temps à rebours est typique de l'hypertemps et c'est un temps totalement nouveau. C'est le temps des machines, fondamentalement. Une machine ne connaît absolument pas le temps comme durée. Elle ne peut pas savoir ce que c'est, mais une machine sait compter le temps en fonction d'un objectif. D'abord et avant tout, une machine se demande, enfin, calcule le nombre de secondes ou de millisecondes qu'il lui faudra pour faire ceci et cela. L'hypertemps est ce milieu dans lequel nous vivons de plus en plus, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, rapidement, il y a un dernier temps qui est le délai notamment de la catastrophe écologique. Il reste encore peu de temps avant qu'une altération dramatique de certaines conditions de vie aient lieu sur notre planète. Et cet imaginaire du temps est tout nouveau. Et notre grand défi est de savoir orchestrer ces différentes temporalités.
Roland Gori, comment est-ce que vous réagissez à ces notions d'hypertemps et de délai par rapport à la catastrophe écologique ?
Je voudrais peut-être d'abord, si vous le permettez, réagir à l'intervention d'Étienne Klein. La science moderne, la physique relativiste comme la physique quantique, mettent en évidence que la notion d'un temps vrai ou universel est une illusion. Ça n'existe pas. Pour prendre des exemples très très simples, par exemple, vous prenez deux horloges atomiques et vous en placez une, n'est-ce pas, au premier étage d'un building et l'autre au dernier étage. Eh bien, l'horloge atomique est à même de montrer une différence parce que le temps passe plus vite en haut qu'en bas. C'est aussi, bien sûr, l'expérience de pensée qui est connue de Langevin. Vous prenez deux jumeaux, n'est-ce pas ? Un reste sur Terre et l'autre part en fusée spatiale, n'est-ce pas, dans les astres. Lorsque le jumeau qui est resté sur Terre a vieilli de 20 ans, à 40 ans, l'autre à 70 ans. C'est-à-dire que donc vous avez, si vous voulez, pour faire vite, on vieillit plus vite au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Donc en quelque sorte, il y a là quelque chose d'extrêmement important qui a été mis en évidence, c'est que le temps est une illusion. Ça, c'est le premier point.
Mais comment ça s'explique qu'on vieillisse plus vite au niveau de la tête qu'au niveau des pieds ?
Alors, je ne vais pas entrer dans...
C'est de la physique, il faudrait faire un cours de physique.
Un cours de physique, il faudrait parler de la gravité, il faudrait parler de l'accélération, il faudrait parler
des
champs gravitationnels, il faudrait parler d'un certain nombre de notions dans lesquelles, si vous le permettez, Anne-Cécile, je ne prendrai pas le risque de m'aventurer. Bon, par contre, on peut prendre déjà le point de vue philosophique, à savoir que c'est notamment notre civilisation occidentale et en particulier influencée par nos religions, notamment la religion chrétienne, que nous considérons le temps comme une espèce de flèche qui part du passé présent vers le futur et qui serait linéaire, qui serait homogène et qu'on pourrait quantifier. C'est aussi là-dessus que va reposer le troisième point sur lequel je voudrais intervenir. Il faut attendre 1891 pour que, par exemple, l'heure en France soit alignée sur l'heure de la capitale, sur Paris. Il faut attendre 1911-1912 pour qu'il y ait une conférence internationale sur le temps, acceptant l'idée d'un alignement, n'est-ce pas, des fuseaux horaires sur Greenwich. Donc, c'est là où on voit que le temps est aussi une norme sociale. C'est-à-dire que c'est l'extension sociale de la norme qui va, avec la révolution industrielle, et ça rejoint ce qu'a dit justement Pascal Chabot, c'est cela qui amène à une rationalisation des activités sociales et productrices qui exige une synchronisation. Et aujourd'hui, bien évidemment, on n'a pas simplement une horloge mécanique, on n'a pas simplement une horloge hydraulique comme du temps de Galilée, on a des horloges atomiques, on a, si vous voulez, une capacité de communication en temps réel et qui est extrêmement pesante sur la vie à la fois sociale et subjective des individus. Et c'est là où on rejoint la question de l'hypermodernité. Si vous le permettez, je terminerai juste par une citation de Jean-François Lyotard, le philosophe, qui me paraît justement dire quelque chose de notre hypermodernité. Il dit que dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous faire produire, pour nous synchroniser en quelque sorte à la fois aux machines et aux activités productrices, eh bien, nous sommes entamés, altérés dans notre capacité de penser.
Pascal Chabot ?
Oui, la notion de synchronisation dont parle Roland Gori est absolument fondamentale. Si l'on y songe, dès l'origine de la modernité, un peu avant le 15e siècle, dans les abbayes, les cloches étaient déjà là, il y avait déjà une mesure du temps. Et quand on décrit la vie de ces abbayes, on voit bien que chacun pouvait aller dans ses pensées, vaquer à ses tâches, et puis la cloche, elle synchronise l'ensemble des consciences et l'ensemble des activités en un posant une structuration de la journée, une structuration du temps. Et par la suite, quand la montre va se développer, parce que c'est une histoire très technique aussi, l'histoire du temps, posséder une montre, c'était être maître du temps et imposer finalement son temps. Et c'est toute une aristocratie de l'instrument qui voit le jour. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, cette notion de synchronisation des consciences, on la vit au quotidien avec un coup de téléphone, avec un message reçu, avec simplement l'ouverture d'un écran. Ouvrir un écran, c'est toujours se resynchroniser au temps universel de l'Internet, des messages, de la communication. Et parfois, certains peuvent le sentir un peu douloureusement, cette synchronisation continue, parce que c'est le temps à soi, le temps peut-être plus libre, le temps à non synchronisé à autrui, mais en phase avec la nature, qui fait défaut, qui manque.
J'appelle un deuxième témoin à la barre, ou plutôt une deuxième témoin, Shainez Chougrani, vous avez la parole.
Je suis au regret de vous le dire. Mais il est clair qu'en chacun de nous, il y a un petit enfant terrifié. Terrifié par la vie, terrifié par les autres, terrifié par le temps qui passe. Je suis ce petit enfant terrifié qui ose prendre la parole devant vous. Dites-moi, qu'est-ce que le temps qui passe ? Ce sont les rides sur le front, les seins qui tombent, les bourses qui pendent ? Suspendre le temps, c'est donc ça. Une phrase choc qui résonne dans vos têtes. Le temps qui passe, c'est un peu pareil. C'est remarquer qu'on a passé trop de temps sur nos appareils, voire l'heure, et se rendre compte qu'on est en retard pour le rendez-vous qu'on s'était fixé. Le temps, c'est en même temps un sablier au milieu du désert, et c'est aussi un horaire imposé qu'on doit respecter. Le temps qui passe, c'est la gravité, la chute des corps, leur dégradation. C'est un mouvement vers le bas, une entropie. Le temps qui passe, c'est quoi pour vous ? C'est la date de péremption sur le pot de yaourt resté au fond du frigo ? Vous savez ce yaourt à la framboise qu'on n'aime pas trop, mais qu'on s'était juré de manger pour éviter le gaspillage. Le temps qui passe, c'est aussi la banane au fond du panier à fruits, qu'on se dit qu'on aura le temps de manger. Et puis de tache brune en tache brune, la voilà totalement noire, pleine de sucre, mais pratiquement immangeable pour les yeux. Alors c'est poubelle. C'est ça ? Le temps qui passe, c'est être attiré par la gravité. Position horizontale pour le sommeil, position debout la journée, gesticulant partout. Moi, je veux pas de ça. Le temps qui passe devient obsessionnel. Couché, debout, rebelote, métro, boulot, dodo, et objectif à remplir. Pour qui ? Pourquoi ? Le temps dans nos sociétés est compté. Ça n'est pas la farniente du lézard au fin fond de l'Afrique. Le temps est découpé en petits morceaux. Réveil à 7h45, petit-déj à 8h, douche à 8h30, début de la journée à 9h15, arrivée du tramway à 9h19, arrivée à destination à 9h37, pause déjeuner à 12h30, reprise du travail à 13h30, pause clope à 15h15, dernier dossier bouclé à 17h45, fin du boulot à 18h. Et voilà comment vous avancez dans la journée, à coups de chronomètre qui vous mène dans une danse avec le temps. Alors dites-moi, lequel des deux a la maîtrise de l'autre ? On s'arrête un instant et on tente de répondre à la question. Avons-nous encore la maîtrise du temps ? Comme si nous l'avions déjà eu un jour. Et puis à quoi bon vouloir s'en rendre maître ? Maître de la nature, maître des animaux, maintenant maître du temps. Oui, mais de quel temps ? Le nôtre, celui des autres ? Il se peut bien que nous soyons incapables de maîtriser le temps, jusqu'à ce que la machine à retourner dans le futur ou le passé soit créée. Alors là, oui. Mais en attendant, Maîtrisons le temps, non comme un maître. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit comme un partenaire de danse dont nous serions les débutants. Laissons-nous vaquer à nos occupations favorites sans culpabilité. Laissez le temps mener la danse et voyez où cela vous mène. Aucun autre conseil à ce stade-là, mis à part de vivre en prenant le temps, car la vie est trop courte pour être petite.
Merci beaucoup, Shaïnaz Chougrani, pour cette lecture. Je précise que ce témoignage a été préparé par les participants au Gymnase des orateurs, un atelier régulier proposé au public du MUCEM. Et l'objectif de cet atelier est double, hein, s'exercer à l'art de la rhétorique et mener l'enquête sur les thématiques du procès. Alors, je vais demander évidemment à nos deux experts de réagir à ce témoignage, Pascal Chabot.
C'est très beau et ça nous montre que réfléchir sur le temps est évidemment une porte d'entrée et vers la métaphysique et vers la poésie. En vous entendant, je me disais que le temps est aussi ce que l'on cherche à abolir. Et c'est toute la fin du texte. Finalement, dans nos existences, nous passons beaucoup de temps à chercher à l'oublier, le temps. Ce qu'il y a de grand dans l'humain, c'est évidemment quand on ne pense pas au temps. Par exemple, quand on écoute de la musique, on regarde un film, ou maintenant, en parlant ensemble, on n'est pas en train de regarder nos montres. Donc, se servir du temps pour l'oublier, peut-être que c'est aussi une des manières artistes qu'ont les humains d'un peu tempérer ce dieu sinistre, absurde, effrayant dont parlait Baudelaire et qui est Chronos.
Roland Gori.
Alors je crois que c'est un témoignage qui est très précieux pour notre procès, parce qu'il met en relief justement, je dirais, les deux pôles à partir desquels on peut approcher la notion de temps. Le pôle sensible, c'est-à-dire le pôle du vivant, le pôle de la vulnérabilité. Et il y a un mot qui n'est pas encore apparu au cours de notre procès, c'est le mot de mortalité. C'est le mot de finitude de la condition humaine. Or, derrière le temps, la question qui se pose, c'est le rapport à la mort. Et c'est un rapport extrêmement important. Je rappelle simplement le Prométhée d'Eschyle. Vous savez que Prométhée n'est pas simplement celui qui apporte la technique et le feu aux hommes pour leur permettre de maîtriser techniquement la nature, il est aussi celui qui leur fait oublier l'heure de leur mort. C'est-à-dire qu'avant Prométhée, les hommes savaient à quel moment ils allaient mourir. Et du coup, ils étaient apathiques. Ils n'avaient aucune relation entre eux. Et c'est à partir du moment, pour reprendre ce que disait Pascal, c'est à partir du moment où ils oublient, c'est-à-dire qu'on leur supprime ce savoir sur l'heure de leur mort, qu'ils peuvent avoir une vie sociale et une vie humaine. L'autre pôle, effectivement, c'est le pôle de l'aliénation que constitue la rationalisation du temps dans la modernité. Et on revient à la question du temps comme marqueur de pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont les autorités ecclésiastiques qui indiquent le temps. Et elles indiquent le temps, par exemple, à quel moment on peut commencer à moissonner, à quel moment on peut commencer à planter. Quand je parle d'autorité ecclésiastique, je parle des sorciers, je parle pas seulement des prêtres, voyez. Et puis, progressivement, sont les autorités temporelles, c'est-à-dire le roi. C'est, par exemple, je crois c'est au XVIe siècle, que un roi français décide que le début de l'année, commencera le 1er janvier. Établir le calendrier, comme le dit le sociologue Bourdieu, c'est établir à l'intérieur de nos têtes un certain rapport à notre vie, à notre monde. C'est-à-dire que le temps est à la fois une structure sociale et une structure cognitive, une structure psychique. Et à l'heure actuelle, n'est-ce pas, dans l'hypermodernité, dans la postmodernité dont on évoquait, mais déjà dans la modernité, on a une très belle définition du moderne par Baudelaire. Le moderne, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. C'est-à-dire que ça ne dure pas. Et on se retrouve à ce moment-là face à cette crise de la modernité dont parlent les historiens, c'est une discordance des temps. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes totalement aliénés à des machines, mais à des machines ultra perfectionnées, comme l'a rapporté votre témoin, qui nous disent quasiment minute par minute quel va être l'emploi de notre temps. Et tout emploi du temps est quelque part une confiscation de notre vie.
Troisième pièce à conviction pour instruire ce procès, un saut dans le monde virtuel.
Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
Le métavers, le métavers. Le métaverse, non, c'est non. Quoi?
C'est la contraction de méta et univers. Pour comprendre, il faut que vous vous imaginiez un monde où vous pourriez danser en boîte de nuit avec des gens qui se situent à des milliers de kilomètres de vous. C'est un monde où on pourrait faire cette émission avec le même décor, les mêmes personnes.
Mais sauf à la plage, sans que ça se voit.
Voilà, sauf que chacun de nous, ce serait chacun chez soi. Un monde de science-fiction en somme, grâce à des casques, il serait accessible grâce à des casques de réalité virtuelle ou des lunettes. C'est le Graal pour Facebook en ce moment. Facebook promet que cette nouvelle technologie n'appartiendra à aucune entreprise. En fait, c'est un peu comme Internet. Sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité.
Alors, que deviendra la notion du temps dans ce monde-là, Pascal Chabot? Qu'est-ce que ça vous inspire, le métaverse?
C'est effectivement un futur et il est inéluctable. Le système contemporain, il est matériellement descriptible à partir de trois réalités. Le verre, le grand verre plat qui fait une frontière entre le dedans et le dehors, les chaises et l'écran. Être dans le système, c'est souvent être assis devant un écran du côté de la vitre où règne le conditionnement atmosphérique. Et dans cet univers du système, on consomme, évidemment. Et ce que l'on oublie complètement de faire et qui est fondamental dans toute la civilisation humaine, c'est de contempler. C'est simplement de contempler, d'être face à du plus grand que soi, plus puissant que soi. On voit la mer ici derrière. Là, c'est ce que l'on ne consommera jamais, ce dont on ne fera jamais le tour. Plus un environnement comme le métavers est finalement un environnement qui est présenté comme mettant tout à disposition et laissant l'humain interagir avec tout, plus on sera dans une logique de consommation, mais finalement où l'essentiel de l'humain, ce qui lui importe le plus, ne sera pas nourri. Donc, quand je dis que c'est inéluctable, cela sera et sans doute cela offrira toute une série de possibilités inanticipables à l'heure actuelle. Mais une fois de plus, en nous retranchant dans ces bulles temporelles, c'est notre corps, c'est la possibilité de se mouvoir, la possibilité du dehors, du grand dehors que l'on oublie, cet éloignement. Là est un éloignement qui nous appartient de conjurer.
Roland Gori, vous avez publié un livre qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» On en approche en tout cas là, c'est-à-dire que si l'horizon c'est d'être dans notre salon avec un casque en 3D pour explorer le monde, se couper de la nature avec un coût en plus écologique de toutes ces technologies extrêmement élevées, on y va direct là vers l'effondrement.
Je ne suis, si vous voulez, ni technoprophète, ni technophobe. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'utilisation qu'on va faire de la technique, et notamment son utilisation sociale, psychologique et culturelle et politique, qui est déterminante. Alors, l'humanité est ce qu'elle mange. Aujourd'hui, ce qu'elle mange, c'est du numérique. Donc, effectivement, l'humain risque de se transformer en profil algorithmique, en profil biostatistique, et qui sera facilement géré par une oligarchie mondiale. Donc, c'est le problème majeur. Alors, c'est pas inéluctable. Hein. On peut effectivement réclamer, et je pense que c'est, à mon avis, une revendication politique et sociale pour moi qui est essentielle, revendiquer du temps pour se rencontrer, du temps pour parler, du temps pour se retrouver dans le rapport dont Pascal parlait avec le corps, avec le sensible. C'est à nous, je dirais, politiquement parlant, culturellement parlant, psychologiquement parlant, de reconnaître que le temps n'existe pas en dehors d'une représentation sociale qui est fabriquée dans une société donnée à une époque donnée et qu'il nous appartient de la modifier pour retrouver le temps pour penser, le temps pour vivre, le temps pour aimer. C'est cela qui me paraît extrêmement important et qui, à mon avis, nous permettrait de comprendre que le temps étant une construction sociale, il n'est pas naturel de nous l'imposer comme une évidence.
Pascal Chabot, vous qui avez publié Global Burnout, j'imagine que vous avez envie de compléter ce que vient de dire Roland Gori.
Effectivement, s'adapter au temps, s'adapter toujours davantage au temps, courir après le temps comme une poule sans tête, est une chose que l'on peut, dans certaines pathologies du travail, entendre et de manière parfois extrêmement douloureuse. Les gens simplement s'adaptent, mais ne se réalisent pas, s'éloignent toujours davantage d'eux-mêmes. L'essentiel est de retrouver, non pas un type de maîtrise du temps, mais la capacité de poser la question qu'André Breton avait comme un programme fait inscrire sur sa tombe du cimetière des Batignolles. Il avait fait graver « Je cherche l'or du temps », L'OR, disant par cela que dans le temps qui est, ce milieu omni-englobant, il y avait une quête possible, qui est une quête qui est dans le temps, mais qui est une quête de qualité, finalement, du moment de qualité, quête de poésie, quête de justesse, de justice, d'engagement, et que l'or du temps pouvait exister. Et cela est très, très beau. Cela veut dire que s'il n'y a pas de maîtrise du temps, évidemment, il peut tout de même y avoir une maîtrise de nos désirs, de ce que l'on cherche et de ce que l'on appelle finalement qualité.
Et c'est un sursaut dont nous avons bien besoin, on l'a bien compris à travers vos différents propos. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Les procès du siècle, c'est tous les lundis soirs à Marseille dans l'auditorium du MUCEM à 19h jusqu'à fin mars. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.